c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et c'est un tout nouveau numéro de Chute, on écoute la télé à laquelle je vous convie aujourd'hui, un numéro un peu spécial puisque c'est la dernière de la saison qu'on va vivre ensemble, dernier hebdo, où on va eh bien feuilleter un peu l'album souvenir de cette saison, pas comme les autres, on peut le dire comme ça, avec de très bons moments malgré tout, je peux vous dire, on a eu de très très beaux invités. Et on va feuilleter également dans cet album souvenir les meilleurs moments des comédiens de Demain nous appartient qui sont venus dans cette émission cette saison pour fêter les 3 ans de la diffusion de la série vendredi dernier, c'était sur TF1. Cet anniversaire. Et puis on va passer eh bien en revue les audiences de la semaine dernière. Par contre, on va pas déroger aux bonnes règles pour cette dernière de la saison. Alors c'est parti si vous voulez bien et on démarre le best-of juste après.
Les top et flops d'audience.
Et dans les audiences, eh bien de lundi dernier, on avait pour commencer eh bien Camping Paradis avec 2 879 000 téléspectateurs qui étaient au rendez-vous, tandis que Le Professionnel attirait quand même 2 089 000 téléspectateurs. Mallorca sur France 2 arrive seulement 3e avec 11,1% du public et ses 2 059 000 téléspectateurs. Daddy Cool sur M6 réussit quand même avec quasiment 10% de part de marché et 1 659 000. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde devant la télé lundi dernier. Et mardi 14 juillet, eh bien sur TF1, Jurassic Park 3 avec 18,4% de part de marché, 3 826 000 téléspectateurs. Le film arrive en tête des audiences. Meurtre en Cornouailles arrive deuxième avec 3 471 000, hein, c'est pas loin derrière, avec 16,9% du public. Tandis que Le Concert de Paris s'en sort bien avec 15,7% de part de marché, 2 848 000 téléspectateurs. Du coup, c'est à France Un Incroyable Talent, La Bataille du Jury, qui souffre un peu avec seulement 10% du public et 1 935 000 téléspectateurs. Mercredi, eh bien sur TF1, il y avait Prodigal Son, 3 164 000. La Carte au Trésor est deuxième avec 2 141 000 téléspectateurs. Et Zone Interdite arrive à troisième position au coude à coude avec France 3 avec 2 122 000 téléspectateurs, 10,6% de public. Et au coude à coude avec France 2, d'ailleurs aussi L'Ami Prodigieuse avec 2 036 000 téléspectateurs. Et puis jeudi, il y avait L'Élève du Kobu sur TF1, 17,6% du public et 3 496 000 téléspectateurs. Né sous silence, le téléfilm sur France 3 fait un beau score. Né sous silence, 14% du public et 2 876 000 téléspectateurs. Et Taratata sur France 2 arrive à la troisième position avec 11,1% de part de marché et 1 960 000.
Chute, on écoute la télé, le best-of.
Le best-of.
Et le premier moment souvenir qu'on a décidé en fait de vous passer, on va remonter en arrière, rappelez-vous, c'était le 30 septembre 2019. Nous avions la chance de recevoir la chanteuse Zaz dans Chute, on écoute la télé, qui était notre invitée d'honneur. On feuillette eh bien évidemment l'effet miroir, son album, et je vous propose tout de suite eh bien d'en découvrir un extrait souvenir de sa venue dans Chute, on écoute la télé, et de l'écouter également en musique après.
Revivre le meilleur de Chute, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chute, on écoute la télé, le best of.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, eh bien c'est Zaz, une chanteuse qu'on aime beaucoup dans notre émission et qui revient pour la deuxième fois. Bonjour Zaz.
Coucou.
Merci d'être avec nous. Quatrième album studio en 2018, c'était L'Effet Miroir. Et ça continue, on a des titres qui arrivent encore. Une tournée internationale. Mais où tu vas t'arrêter? C'est incroyable tout ce qui t'arrive.
Ouais, c'est assez fou, ouais. Ouais, et puis le succès à l'international, c'est complètement... C'est puis ça continue, en fait. C'est comme une relation, en fait. Ça devient de plus en plus fort, de plus en plus... Enfin, voilà. Puis à chaque fois qu'on revient, on se connaît déjà. Donc, on est content de se retrouver. C'est chouette.
Alors, ce qui est assez incroyable, justement, c'est qu'il y a très peu de chanteurs qui arrivent, des chanteuses ou chanteurs français, d'ailleurs, qui arrivent à percer comme ça à l'international. Comment tu expliques ça, que toi, ça, bah, c'est parti?
Moi, je l'explique pas vraiment, hein. Je sais pas, y a pas de recette. Sinon, tout le monde l'appliquerait. J'imagine que c'est mon énergie, ma voix et les valeurs aussi que j'exprime dans les chansons. Il y a beaucoup de gens qui font la traduction. Il y a quelque chose qui leur rappelle aussi la vieille chanson française. Et en même temps, c'est moderne. Donc, il y a un alliage, ça se dit, de tout un tas de choses. Je sais pas trop.
Quels sont les pays là que t'as traversé là pour le coup avec avec tous tes albums?
Oh waouh, putain, plein à Serbie.
Quelques-uns. Qui t'ont marqué peut-être plus que d'autres?
L'Amérique latine, la Serbie, la Turquie, la Pologne, l'Allemagne, République tchèque, les États-Unis, le Japon, le Canada, je sais pas, il y en a plein, Bulgarie, Croatie, l'Angleterre, plein.
Quand t'arrives au Japon la première fois, que tu viens chanter, que tu vois les gens reprendre en cœur tes chansons, ouais. C'est pas forcément palpable le temps que tu y as pas été, mais là tu te dis quoi sur scène? Parce que là tu dois prendre une décharge émotionnelle quand même.
Quand c'est la première fois où t'arrives dans un pays, bon maintenant il y a encore des pays où on n'a pas été, par exemple la Hollande, on n'y avait jamais été, on y est allé cette année, et là on a refait un festival, il y avait plus de 15 000 personnes, enfin c'était fou, et là t'as tout le monde qui chante par cœur alors que t'as jamais foutu pareil. Bulgarie, ça commence à faire maintenant, c'était il y a 5 ans, je sais plus, bon bref, on arrive, il y avait une aréna de 8 000 personnes qui nous attendaient, qui chantaient tout par cœur, donc en fait toi il y a un côté assez fascinant, mais je pense qu'ils chantent en phonétique aussi, puis ils apprennent les paroles, il y a beaucoup de gens qui font la traduction des paroles aussi, il y a beaucoup de profs de français qui font apprendre le français avec les chansons, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre une langue avec des chansons. Bah non, c'est surtout il y a un côté surréaliste, ouais, il y a un côté c'est beaucoup d'amour, c'est vraiment, ils sont hyper heureux. Bah c'est comme un groupe étranger qui vient en France, en fait tu sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir, donc tu profites d'être là. Tu vois, c'est
pour en tout cas, nous on veut le garder pour nous aussi, hein. Je te le dis tout de suite.
J'adore chanter, j'adore jouer en France. Hein. Y a pas de jalousie à avoir. Enfin, de toute façon, chaque pays a quelque chose de particulier. Et la France, c'est mon pays. Donc, mais partout, même, on me demande toujours un pays qui est mieux qu'un autre ou le public est plus fou. Tu peux pas comparer.
C'est différent, en fait.
En fait, c'est différent parce que déjà les cultures sont différentes. C'est sûr que tu vas en Amérique latine, là, ça chante, ça danse, terrible. Au Japon, c'est plus introverti, mais n'empêche qu'à un moment, je les fais se lever et puis ils sont comme des gosses. C'est drôle.
Alors, t'as été de passage en Charente cet été, justement, la fête du cognac au mois de juillet. Je crois que t'as un historique important avec la Charente, la Nouvelle-Aquitaine, hein, ouais. Globalement.
Ouais. Bah ouais, moi j'habitais 14 ans en région Aquitaine, donc Bordeaux, Libourne. J'ai même commencé j'habitais à Guîtres. Enfin, j'ai commencé quand mes parents sont séparés. Après, on habitait à Guîtres. Et après, oui, j'étais dans un groupe qui s'appelle Don Diego, qui était sur Angoulême. Enfin, qui était sur Angoulême. Et donc, du coup, on faisait aussi, on avait monté un quartet de jazz. Et voilà, on faisait tous les environs.
Qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes morts, t'es pas si loin, pas si haut. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes mots, t'as mis la barre à sang. J'ai tant de toi sous la peau, mais orpheline de tes mots, tes mots.
train s'évapore, où reste-t-il dans notre tête? Comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emporté par le temps.
Voilà, Zaz, c'était maintenant il y a quelques mois, hein, dans Chute, on écoute la télé. On va revenir dans un instant pour la suite de ce best-of. C'est notre dernier hebdo de la saison. On est très heureux de feuilleter ensemble l'album Souvenir de cette saison 2019-2020. Alors, à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé pour continuer ce best-of ensemble. On vous l'a dit, on a consacré une partie de ce best-of à Demain nous appartient pour fêter les 3 ans eh bien, de la série qui a fêté ses 3 ans vendredi dernier. Justement, eh bien, rappelez-vous, c'était en septembre dernier, nous avions reçu eh bien, la famille Brunet, alias Victor et Timothée, sous les traits de Farouk Bermouga et de Grégoire Champion. On avait passé un grand moment père-fils, vraiment génial. On écoute, enfin du moins, on réécoute.
Revivre le meilleur de Chute, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chute, on écoute la télé, le best-of.
Allez, vous le savez, la série Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20, le rendez-vous que l'on ne manque pas. Et je suis pas peu fier, et bien aujourd'hui je reçois une interview croisée un peu père-fils avec les personnages de Victor Brunet et de Timothée. Farouk Bermouga et Grégoire Champion sont avec nous, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Alors, vous nous créez des émotions incroyables tous les soirs. Les téléspectateurs avec les replays sont à plus de 4 millions chaque soir. Et Farouk, c'est la première fois pour le coup qu'on parle de Demain nous appartient ensemble. Ouais. Est-ce que tu es surpris par l'engouement et malgré la noirceur parfois, voire la méchanceté de ton personnage, l'amour des fans pour toi?
Ouais, j'ai lu un truc, ils disaient qu'ils adoraient me détester. Donc je pense que dans une série, il y a toujours besoin de quelqu'un qui soit un peu le pendant noir de la série, et donc voilà, moi j'incarne ça et ça me plaît, parce que c'est tous les jours c'est intéressant à tourner, et quand on est acteur, jouer des choses dans deux zones d'ombre qui n'appartiennent pas à ce que je suis vraiment dans la vie, c'est toujours plaisant, et donc c'est fantastique pour moi.
Alors il y a eu des intrigues avec le personnage de Linda Hardy, des scènes très fortes entre vous, hein. Comment vous les appréhendez ces scènes tous les deux?
En fait, on a un très très bon rapport avec Grégoire en tant qu'acteur. Moi, je suis le premier à l'avoir accueilli, puisque quand il est arrivé, c'était une scène ensemble. Et puis, il y a ce rapport père-fils qu'on a dans la série, ce qui fait que, au-delà de ça, nous, en tant que Grégoire et Farouk, on est devenus très amis, et on mange ensemble, on boit des coups ensemble, on se voit en dehors, et on travaille ensemble, et on parle beaucoup de jeu et d'intimité. Ce qui fait que ça a dû créer, naturellement, entre nous, une sorte d'atmosphère et de symbiose, et je crois qu'on s'entend super bien en termes de jeu, voilà.
Je suis complètement d'accord. Je sais pas quoi dire d'autre. Parce qu'en fait, je crois qu'il a tout dit, là.
Il est parfait, hein, t'as vu, hein, comme papa.
Il a une voix, il a les mots, il dit tout ce qu'il faut.
Un charisme. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'emmerder Victor Brunet. Non. Et à la fois, on aurait presque envie d'essayer d'être son ami.
Ouais, mais c'est le paradoxe de ce genre de personnage. C'est pour ça que c'est agréable à jouer. C'est parce que ça peut pas être qu'une facette. Il peut pas être que méchant. Il y a aussi des failles. Et dans tout individu, il y a forcément des failles. Et c'est, pour moi, c'est la chose la plus intéressante à faire.
Quel est ton plus beau souvenir de tournage avec Farouk, Grégoire?
Mon plus beau souvenir de tournage? Ouais, il n'y a pas de plus beau souvenir de tournage, il y a des bonnes journées, il y en a des mauvaises. Et avec Farouk, quand je joue qu'avec lui, quand on est que tous les deux, j'ai souvent des très bonnes journées, parce qu'on arrive à déconner tout en travaillant. Et puis il est là pour me tenir dans le jeu, dans le travail, me dire là ça va pas, là fais attention. Et il me permet de me canaliser.
Alors, par rapport justement à notre personnage, jouer à un jeune autiste, Grégoire, comment tu fais quand on dit action pour rentrer dans la peau de Timothée comme ça de façon tellement immédiate, quand on sait au rythme où vous tournez et à la vitesse où vous devez rentrer les scènes en boîte finalement?
Bah, ça se passe pas aux actions, ça se passe avant en fait. C'est de la concentration. C'est de la concentration, c'est du mental, d'essayer d'oublier les caméras, d'essayer de pas penser à son texte, de pas stresser, de... Parce qu'il y a plein de choses à capter sur un tournage entre les déplacements, les caméras, se mettre dans la lumière, le texte, le jeu, C'est très compliqué, mais c'est de la concentration. Et puis après, soit c'est bon, soit c'est pas bon.
Pour toi, Farouk, c'est quoi ton plus beau souvenir de tournage avec Grégoire?
On en a plein. Moi, j'aime bien les scènes qu'on a eues. Parce que c'était un peu compliqué au départ, le rapport physique avec lui. Puisqu'il joue un autiste. Alors, on sait que le contact physique pour un autiste, c'est toujours assez compliqué. Et moi, j'ai voulu amener ça à un moment donné entre nous, que j'étais une des seules personnes avec Sahel à pouvoir le toucher, à pouvoir le prendre dans mes bras. Et donc il y a des moments de d'intimité, de sens, de sentimentalité qui étaient assez jolis à jouer. Et même les scènes de violence que parfois on a en ce moment, voilà, c'est toujours super intéressant. Et en fait, le jeu, c'est un regard et une écoute. Et je crois que tous les deux, on a ça.
Chut, on écoute la télé, le best-of, le best-of.
Cette histoire, comme si je l'avais rencontrée. La vraie belle nouveauté, c'est celle qui ne vieillit pas, celle qui nous garde le ciel pastel, l'orage quand il fait froid. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves d'enfant. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Petite, je fuis le temps, déjà peur des convenances. La vraie étoffe des gens, c'est fou tout ce qu'ils pensent. C'est triste toute cette méfiance. Faudrait suivre l'avion en papier, hurler pour s'envoler, surtout quand on pense au passé. Je me laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves. Aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves.
Je regarde mon adolescence,
et pourtant c'est pas fini.
Quand t'es-tu à la méfiance,
puis après vient le mépris.
Y'a des jours où ça va mal,
c'est que t'oublies quand ça va bien.
Les adultes y crient râle,
disent des choses qui servent à rien.
Tu passes ta vie dans le passé,
et pourtant c'est pas si beau.
Tu te souviens des jours usés,
des mois de mai, des batailles d'eau.
Faut s'y faire, t'es juste grand,
y en aura plein, tu verras.
Des belles choses, des bons moments,
quand c'est fini tu regretteras. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves d'enfant. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves d'enfant.
Allez, on continue à, eh bien, ensemble à feuilleter l'album souvenir de cette saison. C'est Chut, on écoute la télé, le best-of avec Mélanie Baudran. Elle joue le rôle de Claire Estrella, vous savez, dans la série Ainsi Grand Soleil. C'était d'ailleurs la première série quotidienne à revenir le 1er juin dernier. Et on recevait Mélanie Baudran à l'automne dernier. C'était un grand moment. Nous, on adore Mélanie Baudran dans Chut, on écoute la télé. Voici son passage.
Revivre le meilleur de Chut, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chut, on écoute la télé, le best-of.
Ça a été un des points d'orgue du début de la série, puisque tout a commencé par ton retour à Montpellier. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus d'un an maintenant de recul, est-ce que tu referais tout exactement pareil? Aucun regret? Parce que franchement, le succès est incroyable, la série, plus de 4 millions de téléspectateurs. Qui pouvait prédire un carton pareil? On pouvait prédire un succès, mais un carton, là.
En fait, moi, à la base, j'ai signé pour une aventure qui me semblait vraiment excitante, d'être à l'origine de quelque chose où tout est à créer, en fait. Un personnage, une histoire, un univers. Voilà, l'univers d'un si grand soleil, qui à l'époque ne s'appelait pas un si grand soleil. On savait même pas que ça allait s'appeler comme ça. On ne savait pas à quelle heure ça allait être diffusé. Donc en fait, c'était plus un pari pour relever un défi, pour se lancer dans une aventure, voilà, avec des personnes que je connaissais pas. Thomas, notre producteur, son enthousiasme a gagné un peu tout le monde. Donc voilà, donc on est partis tous avec une énergie débordante et une envie de bien faire, mais sans arrière-pensée en fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai commencé cette aventure sans me projeter réellement sur ce que ça allait devenir. Et en tout cas, je ne pouvais pas avoir l'idée que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le public ait adhéré aussi vite, autant. Voilà, c'est pas qu'on s'était interdit d'y penser, mais en tout cas, on était dans une espèce d'action-réaction qui faisait qu'on se projetait pas sur des scores ou quoi. Donc très rapidement, on s'est réjoui que les gens étaient au rendez-vous. Les gens se sont tout de suite attachés aux personnages, mais parce que le décor était planté dès le départ. Les personnages étaient aboutis. Voilà. La quotidienne, c'est un exercice particulier. En fait, c'est en évolution perpétuelle, quoi. C'est-à-dire, c'est en mouvement. Rien n'est figé. Rien n'est figé. C'est une série qui peut durer X temps. Qui sait ce qui va se passer? En fait, même nous, on le sait pas.
Ça t'aise du temps pour d'autres projets?
Mais non, parce que mine de rien, j'ai quand même beaucoup tourné. Hein. J'ai quasiment une moyenne d'un jour sur deux. Mais on s'organise de mieux en mieux, et c'est vrai que c'est ça l'avantage aussi de qu'il y ait un roulement de comédiens, qu'on ne soit pas que 10 sur lesquels les intrigues tournent. C'est que ça nous permet aussi d'aller voir ailleurs, de revenir, de se nourrir d'autres choses et de ne pas se lasser, parce qu'il faut garder un enthousiasme, il faut garder une spontanéité, et c'est précieux. Donc voilà, là j'ai tourné un long métrage avec Sophie Guimain et Bruno Solo. Je vais tourner dans Nina. Donc voilà, donc c'est possible. La première saison, peut-être ça l'était un peu moins parce que tout était en train de s'installer, de se mettre en place. Mais là, c'est vrai que c'est idéal en fait, parce qu'il y a cette espèce de famille qui a un si grand soleil, qu'on retrouve avec bonheur. Et puis on peut aussi aller naviguer un peu ailleurs. Et savoir qu'on revient à la maison après.
Bon, dans les 2-3 mois qui viennent, on peut s'attendre donc à voir Claire Estrella de façon importante à l'écran.
Ouais, là je suis en train de tourner des intrigues importantes, et puis après au-delà de 2-3 mois, le personnage c'est pas encore totalement écrit, mais le personnage de Claire, oui, il va lui arriver pas mal de choses.
Et on va continuer à feuilleter évidemment nos souvenirs, et notamment avec les séries quotidiennes et Plus belle la vie. Nous avions eu la chance juste avant la diffusion du Prime Catastrophe, qui avait vu l'écroulement du gymnase en septembre dernier, et bien la venue dans l'émission de Jérôme Bertin alias Patrick Nebout, Thibaut Vanek évidemment, et Léonore Sarrazin, les deux inséparables pour le coup de la coloc. Eh bien, on va revivre tout de suite un petit moment de leur venue dans Chut, on écoute la télé. C'était en septembre 2019.
Chut, on écoute la télé, le best-of. Le best-of.
Allez, large page aujourd'hui consacrée à Plus belle la vie, hein, qui fête ses 15 ans depuis le 30 août en grande pompe. Et puis là, eh bien évidemment, c'est le point d'orgue demain avec ce prime événement qui nous attend sur France 3. Et eh bien, on a 3 comédiens qui sont avec nous pour en parler. Jérôme Bertin, bonjour.
Bonjour tout le monde, comment ça va?
Ça va super bien, merci d'être avec nous, alias Patrick Nebout. Nous avons Éléonore Sarrazin qui est avec nous, alias Sabrina. Bonjour Éléonore.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Thibaut Vanek qui est avec nous également, alias Nathan Lézerman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je suis très fier de t'avoir, Thibaut, parce qu'en plus, c'est une première dans Chut, on écoute la télé. Donc, bienvenue chez nous.
Merci.
Alors, prime événement, 15 ans d'une série. Alors, même si tous les trois, Thibaut, je ne sais plus depuis combien d'années tu y es pour le coup. C'est peut-être toi le plus ancien des trois, je crois bien.
Ah oui.
Largement.
Oui, c'est sûr. Je suis arrivé en 2005, moi. C'était presque au début.
Ah oui, un an après, quoi. Donc voilà, après les débuts. Alors aujourd'hui, quel est votre regard? Puisque là, on fête un peu ces 15 ans aujourd'hui. Quel est votre regard sur ces 15 ans de la série? Alors on va commencer par le plus ancien, Thibaut.
C'est forcément, moi, quand je suis rentré à Plus belle la vie, j'avais 20 ans et c'était le premier tournage que je faisais de ma vie professionnelle. Donc forcément, ça a formé ma carrière. Après, j'ai fait d'autres choses à côté, mais j'ai toujours eu Plus belle la vie en même temps. J'ai vu comme ça a changé. Je suis parti et je suis revenu. Et effectivement, c'est très marrant de voir maintenant à quel point c'est pas la même série qu'au début. Et à quel point tout a bougé à tous les niveaux, et surtout pour des améliorations d'ailleurs. Effectivement, moi, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est ma vie professionnelle, quoi.
Pour toi, Éléonore, quel regard tu portes sur ces 15 ans de la série? Est-ce que toi, tu l'as regardée depuis que tu étais toute petite?
Oui, moi, j'ai regardé de mes 10 à 14 ans, donc je regardais Thibaut, en fait, dans l'écran quand j'étais petite.
Tu étais amoureuse? Tu t'amuses.
Il était déjà un peu vieux pour moi, malheureusement. Ouais. Mais non, moi j'ai eu la chance de rentrer dans un train qui allait déjà à très très grande vitesse. Donc,
belle image, je trouve.
Ouais, je suis arrêtée doucement en N-gare histoire de me faire monter, mais sinon ça avance, ça file droit, on a une super équipe qui se nourrit beaucoup de l'amour du public, et je pense que c'est aussi pour ça que la série continue de fonctionner, et c'est grâce à eux que la série est encore là, et que nous, du coup, enfin moi qui suis arrivée bien après, je peux partager du coup un petit peu de ce bonheur-là, donc je suis ravie.
Ouais, celui qui nous a fait croire que pendant 15 jours qu'il était mort l'année dernière, le grand vilain, tu nous as fait peur, hein, Jérôme.
Bah, c'est surtout les auteurs qui avaient dit. Mais moi, bon, il y a 15 ans, j'étais pas né, donc j'ai pas beaucoup de recul sur la série, quoi. Je suis très surpris par l'attitude de Thibaut, qui est quand même un énorme déconneur, et là, qui est super timide. Il est touchant comme ça, parce que c'est un peu, c'est notre maître à tous, quoi. C'est notre ancêtre. On l'appelle comme ça, d'ailleurs, dans la série. Et c'est un modèle. Donc, moi, en fait, quand je serai grand, je serai Thibaut Vanek.
Réaction à chaud.
Bah, écoute, je pense qu'on vient de voir qui était le grand déconneur.
Bon, en tout cas, Jérôme, toi, t'as repris un train, c'est pareil, qui avait déjà été arrêté pour Franck, et t'as repris le flambeau brillamment. Aujourd'hui, Patrick Nebout est un des, on va dire, des comédiens et des personnages préférés de la série, à tel point que bah, ça a fait un buzz énorme, ta fausse mort, l'année dernière.
Ah ouais, moi j'avais été très très surpris parce que je m'attendais pas d'abord à ce qu'ils écrivent ça, les auteurs. Donc ça a été, parce que moi je l'ai vécu comme une vraie mort. Hein. Le but du jeu c'était de le vivre comme ça. Donc j'avais un peu l'impression, je savais que j'allais pas partir, mais quand même j'ai ressenti ce que ça pourrait faire de partir. Et je le déconseille à tout acteur de Plus belle la vie qui veut rester, parce que c'est assez violent, c'est très très violent. Mais ça a été génial parce que ça a été un retour d'amour de la part des fans qui a été exceptionnel. Donc Non, c'était une très très belle intrigue, et il y a pire qui arrive.
Et on va revivre dans un instant la venue de Vaïma Lava Chavez, alias Miss France, dans Chute, on écoute la télé. Mais juste avant, eh bien, nous l'avions reçue juste avant sa participation à Danse avec les Stars. Elsa Esnou, c'est une des coqueluches, hein, de la série Les Mystères de l'Amour. Vous l'adorez, Elsa. Chacune de ses apparitions, c'est carrément une émeute. Et nous, on avait une grande chance de la voir en invité d'honneur dans Chute, on écoute la télé. Revoici un petit passage de sa venue dans l'émission.
Chute, on écoute la télé, le best-of. Best of.
Allez, notre invitée aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, c'est Elsa Esnou qui est avec nous. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dimanche. C'est l'événement sur TMC, le mariage de Christian et Fanny tant attendu. Un mariage qui ne va peut-être pas se passer forcément comme prévu, parce que dans l'imagination de Jean-Luc Azoulay, il se passe tellement de choses dans sa tête que là, dans Les Mystères de l'Amour, on va avoir encore beaucoup de surprises. Mais déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, tu viens de sortir un quatrième album. Est-ce que tu es surprise de, je dirais presque de l'hystérie, de la folie qu'il y a autour de toi? À chacune de tes apparitions, c'est quasiment une émeute. Tes ventes d'albums se sont envolées. Est-ce que toi, tu es étonnée de tout ça? Comment tu le vis?
En fait, je réalise toujours pas. Moi, je reste toujours la Elsa qui se dit comment est-ce qu'on peut. Enfin, c'est extraordinaire des gens qui achètent ma musique. J'aurais jamais cru qu'on pouvait acheter ma musique, mes chansons. Donc, dans ce sens, je continue d'être sur mon petit nuage. Je vis mon rêve. En revanche, c'est vrai que c'est tellement de bonheur, parce que c'est moi, ils me remplissent de bonheur. Tous ces gens-là, je veux dire, qui viennent, que je rencontre effectivement, qui crient mon nom quand je passe à côté. J'en ai toujours les larmes aux yeux parce que je suis très émue de leur réaction. Je suis toujours surprise, très très agréablement surprise encore. En fait, disons que c'est à chaque fois des surprises, voilà, parce que je m'en étonne toujours encore aujourd'hui qu'il puisse y avoir toute cette gentillesse, cette positivité, cet engouement, voilà, autour de moi en fait.
Alors c'est ça qui est assez incroyable et qui est assez magique chez Jean-Luc. C'est que non seulement avec Les Mystères de l'Amour, eh bien, il a attiré toute notre génération, avec toute la bande des anciens. Et grâce à toi, mais aujourd'hui, même les 15-25 regardent, hein, tout le monde.
Alors en fait, il y a eu effectivement, on pourrait dire, un nouveau public. Alors, je pourrais pas dire que c'est grâce à moi, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tous les fidèles, tous ceux qui ont connu, donc Hélène et les garçons qui ont grandi, qui sont devenus parents aujourd'hui, effectivement, font regarder la série à leurs enfants. Donc, c'est eux-mêmes qui leur font connaître. Et comme moi, en plus, je chante, effectivement, les enfants, enfin, souvent ceux que je rencontre, donc en dédicace, puisqu'encore une fois, je ne peux parler que de cette façon, puisque je rencontre les gens, ils me disent, mais mon enfant écoute que tes chansons, il n'aime que toi, il t'écoute toi, voilà. Donc en fait, grâce aux parents, ils leur ont fait découvrir finalement, ben, mon personnage, et du coup, moi, Elsa, qui fait des chansons à côté, et il y a ce nouveau public du coup qui arrive, un public beaucoup plus jeune, et du coup c'est, on pourrait dire, une nouvelle vague encore. Et c'est vrai que dans ce sens, on évolue aussi avec le public. Donc voilà.
Revivre le meilleur de Chute en écoute la télé, c'est tout de suite dans Chute en écoute la télé, le best of.
Et ça tombe bien, non? Kinvé avec son nouveau titre Tahiti. Et ça tombe bien, on va enchaîner tout de suite avec la venue de Vaïma Lama Chavez, notre Miss France 2019 adorée justement. Et elle était de passage chez nous juste avant de rendre sa couronne. C'était en décembre dernier dans Chute, on écoute la télé. La revoici, Vaïma Lama.
Chute, on écoute la télé, le best-of.
Et dans quelques jours, eh bien, c'est l'élection de Miss France en direct du Dôme de Marseille. Et je suis pas peu fier de la recevoir à nouveau dans cette émission. C'est presque une habituée maintenant. Et tu seras tout le temps la bienvenue chez nous, Vaïma Lama Chavez. Bonjour.
Coucou Alain, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Je te le dis, franchement, tu as été une Miss extraordinaire. Une année incroyable. On a passé des moments ensemble toute l'année sur des manifestations. Quel regard tu portes sur cette année maintenant écoulée, avec toutes les rencontres, les belles rencontres que tu as pu faire avec les gens, les associations, les médias? Il s'est passé tellement de choses.
Ouh là là, ça va être difficile à résumer. Je pense que je regarde l'année qui vient de passer avec de la nostalgie, évidemment, parce que évidemment nous sommes presque à la fin, puisque dans une semaine, je vais trouver ma remplaçante. Néanmoins, c'est aussi avec beaucoup de joie que je le fais, parce que il y a un temps pour chaque chose. Et mon temps en tant que Miss France est presque terminé. Et il est temps pour une nouvelle Miss France de devenir et d'être sur le devant de la scène nationale pour faire briller les valeurs que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Nous sommes à quelques jours de l'élection. Je sais que j'ai beaucoup changé, que j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup pris en maturité, que j'ai pris beaucoup de hauteur du haut de mon 178 cm. Plus les 10 cm de talons et les 10 cm de couronne. Ça fait presque 2 mètres quand même. Et surtout, beaucoup de souvenirs qui se sont accumulés au cours de cette année qui m'ont fait bien mûrir et dont je suis extrêmement fière.
Alors toi qui luttes énormément contre le harcèlement scolaire, qui a vécu des choses difficiles, c'est tellement une belle revanche, tous ces sourires que tu as pu croiser toute l'année et tout l'amour que tu as reçu du public.
Alors, il est vrai que mes années au collège n'étaient pas forcément évidentes. Néanmoins, il ne faut pas appeler ça une revanche, parce que ça veut dire qu'on l'a encore qui pèse sur le cœur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, mais c'est quelque chose qui fait partie du passé. Nous sommes dans le présent et c'est un cadeau du temps. Nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2019. Je suis Miss France et heureuse de pouvoir représenter les valeurs d'un pays aussi fort.
Je suis certain que toute ton île de Tahiti, que la Polynésie française est tellement fière de toi aujourd'hui. Quand tu y as été, ça a dû être à chaque fois une fête cette année.
Alors oui, non, parce qu'effectivement le premier jour c'était en officiel, enfin la première fois que je suis rentrée. Et c'est vrai qu'il y avait du monde. Néanmoins, quand je rentrais un petit peu plus en secret en Polynésie, bon là j'essayais de me cacher un petit peu derrière mon grand suite et tout quand je rentrais pour mes vacances, parce que voilà, ce qui est important pour moi c'est de passer avec un moment avec ma famille par exemple. Et à partir du moment où c'est un moment qui est dit officiel, du coup je passe plus de temps avec d'autres personnes et pas ma famille. Et étant donné que j'étais à 18 000 km d'eux pendant presque un an, c'était pas tous les jours évident.
Quelles ont été tes plus belles rencontres, quoi, toi qui as pu rencontrer plein de stars du monde politique? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus impressionné que d'autres?
Alors, c'est vrai que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui sont dites influentes. Néanmoins, je pense que mes plus belles rencontres restent dans le cadre professionnel. Il y a Sylvie Tellier, évidemment, qui est la directrice de Miss France Organisation. Olivier Noël, qui a été mon chaperon, qui m'a accompagnée sur toutes les routes, dans toutes les régions, et avec qui on a pu découvrir toutes les gares de la France, et de métropole, et parfois les aéroports des Antilles et des Outre-mer. Il y a Estelle Sabatier qui m'accompagne pour tout ce qui est événementiel et représentation. Il y a Léa Merlot qui s'occupe du digital et Mélissa Hernandez qui gère les partenariats. Et j'ai eu l'occasion de vivre, de travailler avec elle et de découvrir des personnes extraordinaires, ainsi que Justine Dubourg qui s'occupe de tout ce qui est médias. Et je repartirai cette année avec de nouveaux liens et de nouvelles relations, de nouveaux amis. Et je suis très heureuse d'avoir pu prendre part à cette aventure.
Sont closes, est-ce qu'il fait beau dehors? Il y aurait tant de choses à faire, mais nous on se rendort. Tourne le monde autour et au fond, peu importe, on ne laisse qu'un peu de jour se glisser sous la porte. Si c'était juste un rêve, pourquoi est-ce qu'il défile en boucle dans ma tête? J'ai le
Et on va se retrouver dans un instant pour la suite du best-of. On va parler cinéma avec Franck Dubosc et puis bien sûr nos producteurs régionaux avec Thierry Magui de la Galette Lusacaise. Alors surtout ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et de retour pour la dernière partie de Chut, on écoute la télé. Pour cette dernière hebdo de la saison, on va continuer à dérouler ensemble eh bien, ce best-of et feuilleter l'album souvenir de cette saison 2019-2020 avec notamment la venue de Franck Dubosc qu'on va remonter en arrière. Rappelez-vous, c'était le 17 février dernier. C'était à 2 jours de la sortie du film 10 jours sans maman. Franck Dubosc était venu dans l'émission avec Ludovic Colbeau-Justin justement nous en parler de ce film. Et d'ailleurs, le film, on peut le voir encore dans certaines salles de cinéma puisqu'il a été repris le 22 juin en sortie salle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et on rigole beaucoup, je peux vous le dire. Et voici tout de suite, mais en tout cas, en souvenir et en best-of, Franck Dubosc, c'était dans Chut, on écoute la télé.
Chut, on écoute la télé, le best-of. Le best-of.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé, on continue notre spécial 10 jours sans maman et c'est Franck Dubosc qui nous rejoint maintenant. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a planté un petit peu le décor avec Ludovic à l'instant. Moi déjà, première question que j'ai envie de te poser Franck, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ?
Ce qui m'a plu d'abord, c'est que c'était une comédie familiale. Moi j'aime les comédies familiales, on n'en fait pas toujours, j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas toujours... le cas de tous les films que je fais, donc j'aime bien pouvoir réunir, surtout maintenant que je suis papa, j'aime bien pouvoir dire tiens, on va faire une avant-première du film de papa et que mes garçons puissent voir un film que j'ai fait, voir au moins pourquoi papa s'en va de temps en temps pour travailler. Et puis ensuite, parce que je trouve, au-delà du côté drôle de la chose, du côté léger, je trouve que c'est, je m'y retrouve tellement là-dedans, dans cet homme qui ose dire à sa femme, toi, une fois que t'as porté les enfants à l'école à 9h, entre 9h et 16h, t'as plus rien à faire. Je me suis tellement retrouvé là-dedans, ça m'a tellement donné une petite claque que je me suis dit, ça ne peut qu'intéresser les gens, en tout cas pour se divertir, puis pour éventuellement que les couples qui y vont puissent donner des coups de coude en disant, t'as vu, que les femmes puissent dire à leurs hommes, t'as vu, t'es comme ça. J'avais envie de ça, la petite leçon gentillette qu'on peut donner à nous les hommes.
Quand t'as lu le scénario, justement, tu as pu t'identifier, toi qui, à mon avis, aussi sans arrêt sur les routes, tout le temps, dans les trains, dans les avions, entre les spectacles, les tournages, les préparations de films, à un moment, tu t'es dit, c'est vrai, mes enfants, j'en ai peut-être pas assez profité ou j'en profite pas assez.
Oui, c'est-à-dire qu'on les regarde pas assez, on les regarde pas de la bonne manière, en fait. On croit qu'on les regarde, on croit qu'on est là, et puis finalement, on n'est plus là avec la tête, on est là avec le corps, mais plus avec l'esprit. Et puis on finit, effectivement, par se regarder soi, par regarder tout ce qu'il y a autour, par avoir l'impression d'être débordé, et puis, oui, de les oublier un peu, mais eux nous oublient pas et savent nous le rappeler, mais quand ils nous le rappellent, les enfants, parfois, il est un petit peu trop tard. Donc il faut réagir avant.
Il y a des anecdotes drôles avec les 4 enfants que tu as dû devoir gérer avec Ludovic sur le tournage en tant que papa de fiction.
Je vais vous dire, c'est la première fois que je me fais chier dessus par un enfant. Et le petit garçon de 2 ans et demi, qui n'a quand même que 2 ans et demi, une fois en tournée, et effectivement, j'ai senti que parmi tous les autres acteurs, ça pouvait être que lui qui avait fait dans sa couche. Donc voilà, donc c'est la première fois quand même qu'un acteur ose me faire ça dans les bras, quand il est dans mes bras, hein, après il peut le faire à côté de moi. Sinon c'est quoi des anecdotes?
Déjà celle-là elle est pas mal, il paraît que t'as fait des cascades toi-même aussi, pareil, hein, dans ce film.
Aider, on est toujours aidé, vous savez, il y a des gens dont c'est le métier, les cascadeurs, de faire ce qui est un petit peu plus difficile, alors nous on fait le maximum de ce qu'on peut faire, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a toujours des gens, mais dans la boule, quand je suis filmé, c'est moi qui suis dedans, après d'autres m'ont remplacé plus pour me reposer que pour parce que je pouvais pas le faire. Et le réalisateur, lui, Ludovic, était dans la boule tout le temps, pratiquement. Bah moi j'essaie de faire, je veux pas, je ferai pas une carrière en disant moi je peux le ni Belmondo ni Tom Cruise à faire mes propres cascades. D'abord parce que comme je le dis, j'estime qu'il y a des gens qui sont dont c'est le métier, et c'est pas la peine de leur retirer ça. Et puis j'aurais peut-être pas le courage de certaines, mais tant que je peux le faire, je le fais. Mais c'est être avec des enfants, c'est déjà une cascade, hein. Jouer 4
ans. Cascade perpétuelle.
Voilà, et celle-là, c'est une cascade perpétuelle, et celle-là, je suis pas doublé du tout.
Quel a été le meilleur moment de tournage pour le coup?
Ah, il y a plein de bons moments. C'est un bon souvenir parce que d'abord, on est, il fait bon, il fait chaud. On tourne dans une jolie maison, on tourne dans le sud. Il y a une espèce de, il y a la fraîcheur qui se dégage du film, qui est sur le tournage aussi. Donc il y a, le film est un bon moment en lui-même. J'ai aimé le moment où on est dans le sud, forcément. Quand on tourne les parties autour du lac, je trouve que c'était un bon moment de détente.
Le décor est très très beau. Bon, il est comment Ludovic en réalisateur?
C'est un ancien assistant, donc c'est assez rare parce qu'on croit que souvent que les premiers assistants vont devenir réalisateurs, ce qui est faux. Beaucoup de premiers assistants, c'est un vrai métier, premier assistant. Et mais là, en l'occurrence, il a été premier assistant de grands réalisateurs. Donc je donne l'exemple de Luc Besson. Quand on est assistant de Luc Besson, on fait pas qu'être premier assistant, on devient réalisateur de deuxième équipe. Il y a des cascades, il y a beaucoup de choses à gérer. Il a cette chance, au-delà d'aimer les acteurs et d'être un vrai réalisateur, comme tous les réalisateurs que j'ai rencontrés, d'aller plus vite parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a dans la tête, il y a un réalisateur et un premier assistant. Alors pour les gens, un premier assistant, les gens ne savent pas bien ce que c'est. Un assistant réalisateur, c'est vraiment le plus que le bras droit du réalisateur dans un film. C'est vraiment celui qui va faire tout ce qui est le plus dur, en fait, tout ce qui est le plus chiant. Et il va gérer tout un plateau, tout plein de gens. Et il n'est pas l'assistant du réalisateur, il ne réalise pas le film, il fait plein d'autres choses. Et donc, je pense que quand on devient réalisateur, moi j'ai réalisé donc qu'un film, je vais en faire un deuxième. Il y a des fois, j'aurais bien aimé être assistant pour aller un tout petit peu plus vite dans ma tête. Il y a des questions que pose un assistant. Si vous l'avez été assistant, vous n'avez plus ces questions-là et vous les posez vous-même avant qu'on vous les pose. Enfin,
on gagne du temps.
C'est un temps d'avance. Gagner du temps, je ne parle même pas dans les horaires de travail, je parle dans la démarche du tournage. Donc, gagner du temps au cinéma, c'est faire un meilleur film, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien.
Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école.
Maman, y a plus de jeu.
Maman, il est où l'iPad?
Maman, il est où mon sac de cours?
Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants.
Oh, ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va.
T'es sérieux, là?
Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place.
Vraiment?
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Allez, on termine eh bien cette émission comme à l'accoutumée après ce petit best-of. J'espère que vous avez eh bien passé un bon moment en revivant les meilleurs moments de cette saison 2019-2020 que l'on a vécu dans Chute, on écoute la télé. On met nos producteurs locaux à l'honneur. Alors on a passé Marie Morin, l'Angélis, on a passé les Caprices de Thérèse et on va continuer un peu dans la gourmandise du côté de la Charente-Maritime ce coup-ci avec la galette Lusacaise que vous pouvez retrouver eh bien, sur la route de vos vacances entre Sainte et l'île d'Oléron à Saint-Just-Luzac. Et la galette lusacaise, c'est le spécialiste de la galette charentaise, pur beurre bien évidemment, avec Thierry Maguet qui est justement notre invité. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La galette lusacaise, elle existe maintenant depuis longtemps, mais ce n'est pas la seule spécialité de la galette lusacaise. La galette lusacaise, c'est aussi la fameuse boîte officielle Fort Boyard qui fait tant un carton avec des animations un petit peu partout dans le département avec Passe-Muraille en plus, hein.
Oui, c'est ça. On a sorti aussi toute une gamme de boîtes, hein, souvenirs. Pas que la boîte Fort Boyard, mais notre boîte leader, c'est la boîte Fort Boyard. Et on a des animations cet été, au mois de juillet, au mois d'août, avec Passe-Muraille.
Alors, la galette lusacaise, c'est né comment? Raconte-nous un petit peu, puisque la galette charentaise, aujourd'hui, c'est devenu un des piliers de la gastronomie charentaise en plus, hein.
Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, parce que c'est une entreprise familiale, quand j'ai commencé à produire la galette charentaise, c'était mon père qui avait une recette de galette charentaise qu'on a toujours conservée, mais il n'avait qu'une sorte. Et nous, il a fallu vraiment produire une nouvelle gamme. Et donc maintenant, on a 180 références.
Ah oui, ça commence à faire du bruit. Et puis la nouveauté aussi, hein, parce qu'on connaissait le broyé du Poitou. Mais maintenant, il va devoir faire avec le broyé charentais.
Exactement. On a sorti toute une gamme de broyés charentais, nature, au caramel. On a sorti aussi des petits sacs souvenirs avec un sachet de galette nature et un sachet broyé. Et c'est très, très, très joli. Et ça marche énormément.
Alors, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer évidemment avec modération, on peut retrouver tes fameuses galettes aussi déclinées. Par exemple, le gâteau charentais au pinot ou au cognac. C'est notre spécialité, ça, de notre région.
Pinot, cognac, rhum raisin, c'est vrai qu'on a une gamme quand même assez importante et c'est vrai que pour les vacanciers, ils sont très friands de ces gâteaux-là.
Alors évidemment, c'est l'idéal sur la route de vos vacances, mais toute l'année, hein, bien sûr, vous trouverez eh bien des galettes charentaises pour parfaire vos repas du dimanche. Pourquoi pas, ou accompagner une bonne petite glace de notre ami de l'Angélis, qui était avec nous il y a une quinzaine de jours, de Denis Lavaux. C'est vrai qu'il y a de quoi se régaler quand même.
C'est vrai, et puis avec les glaces Angélis, c'est vrai qu'elles sont très bonnes et ça se marie très très bien.
Alors, on peut aussi les consommer au petit déjeuner?
Au petit déjeuner ou au goûter aussi avec une salade de fruits, ça se passe très très bien.
Alors comment ça s'est passé justement cette boîte officielle Fort Boyard qui a été l'objet évidemment de nombreuses tentatives de corruption, de copies, c'était dur à mettre en place pour rester le seul justement, l'officiel Fort Boyard.
C'est vrai que ça a été très très dur. Déjà pour créer cette boîte-là, il nous a fallu 2 ans parce que il y a des petits secrets hein, sur cette boîte-là que je vais pas divulguer. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de recherches et il a fallu 2 ans. Et c'est une boîte qui a marché, qui a très très bien marché, qui marche très bien. On a décliné une nouvelle gamme aussi de boîte Fort Boyard. Et bien sûr, on est copié.
Les galettes charentaises en tout cas et les gâteaux charentais, vous pouvez les retrouver un petit peu partout dans les grandes surfaces évidemment des Charentes, bien évidemment. Des animations Fort Boyard, vous voulez rencontrer Passe-Muraille, eh bien écoutez, on va exaucer votre rêve. Il suffit tout simplement de venir sur notre page Facebook Chute en écoute la télé et nous allons eh bien vous mettre les dates chaque semaine des endroits où vous pouvez rencontrer Passe-Muraille du côté des Charentins.
C'est ça. Mais cette année, faites très attention avec ce virus. Les animations auront lieu que l'après-midi de 15h à 18h. Donc faites très attention. Ça sera que de 15h à 18h sur Royan, l'île d'Oléron, Saint-Palais, etc., etc.
Gardez vos distances, bien sûr, voilà, c'est important, le virus est toujours là, on le répétera jamais assez, de faire attention aux distanciations lors de vos attentes hein, sur ces séances, évidemment, de dédicaces avec Passe-Muraille et puis de dégustation, évidemment, de ces fameuses galettes charentaises. Thierry, merci d'avoir été avec nous, on répète quand on retrouve ici, dans la zone artisanale du Fiat de Luzac, hein, c'est sur la route, j'allais dire nationale, hein, mais c'est presque une nationale, entre Sainte et l'île d'Oléron, vous êtes au bord de la route, on peut pas vous rater, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et vous faire eh bien, ce petit plaisir d'un cadeau régional. Voilà, que vous soyez en vacances ou vous soyez d'ici, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup. Hein. Et puis, à la prochaine.
À bientôt, Thierry. Merci.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Eh bien voilà, c'est fini pour cette saison. Moi, je suis très heureux en tout cas d'avoir passé cette saison en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. On va revenir plus en forme que jamais. Ça sera le lundi 31 août prochain pour les nouvelles quotidiennes, bien sûr. Et puis des nouvelles hebdo inédites pour la rentrée. Je peux vous dire qu'on va vous réserver beaucoup, beaucoup de surprises. Je voudrais en profiter pour remercier eh bien toute l'équipe de votre radio sur laquelle on a été accueillis, évidemment, comme des rois. On a passé vraiment une saison magnifique à vos côtés, donc voilà, vraiment merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous suivre tout au long du mois d'août, évidemment, sur nos pages Facebook, Chute on écoute la télé, ou Instagram, encore aussi on écoute la télé. Vous avez nos applications pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, notre site internet onécoutelatélé.com pour rester connecté avec nous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Merci encore à tous, je vous souhaite un très très bel été, bien évidemment à l'écoute de vos programmes, et puis n'oubliez pas, hein, dès demain, il y a quand même encore les quotidienne tout au long de la semaine aux horaires habituels sur votre radio. Alors merci à tous et à très très bientôt dans Chute on écoute la télé.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.